إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala cette série les différences jaliya entre la salafia et la hizbiya et la hizbiya. Donc la dernière fois on a parlé de la troisième différence et qui concernait المنقف من الإمامة والبيعة. La position à avoir concernant الإمامة et concernant البيعة, le serment d'allégeance. Donc on avait vu durant le premier cours les premiers points à savoir et aujourd'hui inshallah on va continuer à développer donc cette différence qui est très importante et qui nous permet donc de pouvoir savoir qui va suivre ce manhaj, le manhaj de la salafia et celui qui va suivre le manhaj de la Hizbiya, Wallahu al-Musta'an. Il nous dit, Al-Imam al-Ajurri fi al-Shari'a man amara alayka min arabi ou ghayri aswadina ou abiyad ou a'jami fa'ati'u fima laysa lillahi azza wa jal fihi ma'asiyya wa in dharamaka haqqan lak wa in dharabaka zulman wa intahaka irdak wa akhada malak فلا يحملك ذلك على أنه يخرج عليه سيفك أنه يخرج عليه سيفك حتى تقاتله ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن اصبر عليه ولكن اصبر عليه. Donc ici ce grand imam Al-Ajuri nous dit, celui qui est devenu ton émir, celui dont tu dois suivre, celui dont tu dois obéir, qu'il soit un arabe ou un autre, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, qu'il soit non arabe, alors tu dois le suivre tant que ce n'est pas dans une marsiya, dans une désobéissance à Allah Azzawajal. Et même s'il t'a fait injustice, qu'il t'a pris ton droit, et même s'il t'a frappé par injustice, et même s'il a sali ou s'il a touché ton honneur, et même s'il a pris ton argent, alors que cela ne te pousse pas à sortir contre lui pour que tu le combattes. Et ne sors pas avec un khariji pour que tu le combattes. Et ne pousse pas et ne motive pas les autres à sortir contre celui-là, émir. Mais espère aller, c'est-à-dire as-sabr, c'est-à-dire donc patiente devant tout cela. Ça, c'est un grand imam qui nous a rapporté les paroles des salafs et qui nous donne ici ce qui est muqarrar fi al-manhaj al-salafi dans son livre donc qui s'intitule Al-Sharia. Et bien entendu cela est pris, toutes ces paroles elles ont été prises de plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on est bien loin ici de ce qu'on peut voir de nos jours ou de ce qu'on peut entendre ou de ce que on nous rabâche sans cesse, Wallah al-Musta'an, qui vient de gens qui n'ont pas été éduqués sur ce manhaj, qui n'ont pas été éduqués sur cette voie-là, qui n'ont pas été éduqués par cette science-là, cette science bénie venant des salafs. Mais ils ont été éduqués avec les livres de Al-Maududi, de Sayyid Qutb et de tous Al-Hizbiyyin que l'on connaît et dont leurs livres se sont malheureusement répandus dans Al-Mujtamar, dans les sociétés musulmanes. Et bien entendu ici, il est important de rappeler quel était le mawqif, quelle était la position des salafs par rapport au gouverneur. Et qu'on parle des salafs, c'est une longue période qui a débuté bien entendu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est bien entendu le meilleur et à la tête de nos salafs, et qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite avec les sahaba, et ensuite avec les tabi'in. Et donc on peut voir comment tabbaqu, c'est-à-dire comment les sahaba en premier temps, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mis à exécution. et ils ont appliqué les wasaya, c'est-à-dire donc les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après sa sunna. Comment ils l'ont appliqué par rapport au gouverneur? Tout ce qui touche donc à ce mawqif qui est de al-imama wal-bay'a. Et on va voir que leur situation, et la situation qu'ont vécu ces salafs, et donc qui a continué après les tabi'in, atba' al-tabi'in, durant ces trois siècles. Et durant ces trois siècles, il y en a eu des fitanes. Et il y en a eu des gouverneurs qui étaient loin d'être pieux et qui appliquaient la justice. Et on va voir des exemples à travers les paroles des savants. Car c'est un sujet qui est important de rappeler. C'est un sujet que l'on doit apprendre. Car on s'aperçoit, et de nos jours, qu'autour de cela, il y a tant de fitnas. Qu'autour de cela, il y a tant de tashkik, c'est-à-dire tant de doutes qui sont mis dans le cœur des jeunes. Et tant de sang qui ont coulé à cause des mauvaises compréhensions ou alors à cause de la mauvaise éducation qui a été donnée à ces jeunes. Ou tout simplement al-jahl, c'est-à-dire l'ignorance totale de ce qu'est al-menhaj, de ce qu'est donc la voie dans ce chapitre-là, ce chapitre de al-imama ou al-bay'a. Si on demande à beaucoup ou même à la plupart des jeunes, malheureusement, ils vont dire des énormités sur ce sujet. Et ils vont parler d'une langue qui n'est pas celle d'une personne qui a été éduquée sur cette voie-là, cette voie bénie. Wallah al-musta'an. On va donc rappeler les paroles des savants et sur quelles preuves ils s'appuient dans cela. Et parmi les savants que l'on va citer, le premier qu'on a cité donc ici, c'est Al-Jurri dans son livre Al-Sharia. Et ensuite, la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, fi minhaj al-sunnah al-nabawiyya. Et le Cheikh, rahimahullah, il a beaucoup parlé sur cette question-là, du gouverneur et de la position que l'on doit avoir. Et également, on va voir d'autres paroles de savants et certaines questions qui vont venir, qui seront peut-être plus délicates, mais qu'il faut savoir également. Il nous dit, rahimahullah, donc dans le livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. Et donc ce qui est connu de la voix des gens de la Sunna, c'est qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas la yaraun, c'est-à-dire donc qu'ils ne voient pas et qu'ils condamnent et que jamais ils n'apprécient ou ils incitent à yuqirun, c'est qu'ils vont dire toute parole qui va impliquer à cela. Bien au contraire, la yaraun al-khuruj ala al-imma, ils ne voient pas donc la révolte contre les imams et ils ne voient pas leur combat avec les armes. وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et même s'il se trouve dans cet imam de l'injustice, comme cela a été indiqué par les hadiths qui sont authentiques et qui sont très nombreux, que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم دون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسدان بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. نعم. Et il nous dit donc que le façade que l'on va trouver et qui va advenir lorsqu'on va combattre, et la fitna va devenir bien plus grande que ce façade-là. C'est-à-dire le façade que l'on va trouver fil qital ou le fitna tu a'zamu min al-fasad al-hasil bi dhulmihim duna qital wa la fitna. Et donc bien entendu le façade que l'on va voir dans ce qital, ça va être un façade qui va être bien plus grand, bien plus important que le façade qu'on va trouver dans leur injustice. Et donc, on ne va pas rentrer dans un moyen ou dans un acte qui, pour faire reculer une fitna ou pour faire reculer un façade, cela va nous amener à un façade qui va être plus important. On ne va pas appliquer le fait de repousser un façade Alors que, à travers ce façade-là, on va trouver un autre façade qui va être encore plus grand. Ou ça va engendrer un façade qui va être encore plus grand. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle, cher al-Islam, que tu ne trouveras pas donc une taïfa, c'est-à-dire un groupe, qui est sorti contre le gouverneur, sans que son état, qui était avant le khuruj min al-fasad, c'est-à-dire l'état qu'il y avait et qui se trouvait avant leur khuruj, et même donc si c'était un état de façade, alors à ce moment-là, on va s'apercevoir que dans tous les cas, ce qui est advenu après ce khuruj, c'était encore pire. Le façade, il était encore plus grand. Et ce façade, il était encore plus grand de celui qu'ils ont voulu supprimer. Ils ont voulu supprimer donc ce façade en voulant combattre ce émir, ou alors ce gouverneur, et il est devenu un façade qui est encore plus grand. Wallah al-musta'an. Et bien entendu, le shir, il va citer plusieurs hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va citer ici, qu'on va expliquer. Car c'est en réalité, de par cette lumière de la sunna, qu'on comprend, et que les choses s'éclaircissent. Parmi les hadiths qu'il a cités, le shir, celui qui se trouve fi sahihain, al-ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, où il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innakum sataroun ba'di atharatan wa umuran tankirunaha. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith d'Ibn Mas'ud, il a informé les sahaba qu'ils allaient voir des choses qu'ils allaient détester, qu'ils allaient repousser de par leur cœur, qu'ils allaient trouver blâmables, des choses blâmables. Tunkirunaha. Et il nous a dit le prophète sallam ici, innakum satarun ba'di atharatan. Atharatan. Qu'est-ce qu'il veut dire ce terme? Atharatan ma'na al-istithar. Amman lahu fi haqq. Inam. Et comme nous l'explique Charles Othémin, rahmatullah alayh, il nous dit, yuridu bi dhalika annahu yastawli ala al-muslimin wilat. Yastatharun bi amwal al-muslimin. يصرفونها عما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها. C'est-à-dire tout simplement qu'on va trouver des gouverneurs qui ont le pouvoir sur les musulmans et qui vont utiliser l'argent des musulmans dans des choses que eux ils voudront et qui sont certainement contraires à al-maslaha, c'est-à-dire à l'intérêt général. Al-maslahatul 'amma. وَيَمْنَعُونَ الْمُسْلِمِينَ حَقَّهُمْ فِيهَا. Ils vont empêcher les musulmans de prendre leurs droits dans cet argent-là. Regardez ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est marna, athara. إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِ atharatan. Vous allez voir après moi, atharatan wa umuran tunkirunaha. Et beaucoup de choses que vous allez détester, que vous allez blâmer de par votre cœur. Tunkirunaha. قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire à ce moment-là, lorsqu'on va voir ces choses-là de la part de ces gouverneurs? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a dit ici Ukhruju ali qatiluhum? Est-ce qu'il a dit cette parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez ce qui est venu dans la sunna, et c'est la parole de celui qui ne prononce rien de par la passion. C'est une révélation qui est révélée. Tu'adun al-haqq alladhi alaykum. C'est-à-dire, vous vous acquittez de vos droits. Vous vous acquittez de vos droits par rapport au gouverneur. Et vous demandez à Allah Azzawajal le droit qu'ils ont pris de vous, ou le droit qu'il vous doit. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ça, c'est un hadith donc qui fait sahihain, authentique. Donc on voit ces deux termes qui ont été utilisés par le prophète sallam. Innakum satarun ba'di atharatan. On a expliqué le terme atharatan, on a. Wa umuran. Et dans un autre hadith qui est également lui dans les deux authentiques, an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrah fal yasbir alayh, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata illa mata maytatan jahiliya. Celui qui va voir de son amir, donc de celui qui a le pouvoir sur lui, qui détient l'autorité, une chose qu'il va détester. Alors, il fallait espérer, allez, alors qu'il patiente. Et celui donc qui va s'écarter et qui va se désengager de l'al-jama'a, donc du groupe, shibran, que ce soit donc d'une coudée, et qui meurt dans cet état-là, alors il va mourir dans un état de jahiliya. Illa mata maytata jahiliya. C'est-à-dire, il meurt d'une mort de la jahiliya. Wallah al-musta'an. Et beaucoup d'alfaz sont venus dans les deux authentiques et dans les sunan également. Et parmi donc ceux qu'il a cité le shir comme love, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Donc regardez dans ce love où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous oblige et il nous ordonne d'écouter et de suivre à celui qui détient le pouvoir, l'île Amir. Et regardez dans quelles conditions ici. Ça, c'est pas la parole de n'importe qui. Cette parole-là, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit. وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ. Et si il te frappe ton dos. Yani, il te frappe. Il arrive à ce moment-là un préjudice jusqu'à ton corps. وَأَخَذَ مَالَكَ. Et il prend ton argent, tes biens. Si ça, ce n'est pas du dhulm. Fasma' wa ati'. Alors à ce moment-là, ici, à la sirat al-amr. Fasma' wa ati'. À la sirat al-amr. C'est-à-dire, ici, la forme verbale, elle est à l'impératif. Tu dois impérativement écouter et obéir. Même dans ce cas-là. Qui ici, de nos jours, va appliquer ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui ici de nos jours va suivre la sunna? Qui ici de nos jours va se conformer à ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui concerne l'imama, dans ce qui concerne l'bay'a? Et les hadiths, ils sont nombreux. Et les chapitres, ils ont été écrits. Et des livres, ils ont été écrits et distribués. Mais est-ce que les gens, ils lisent? Et comment ils lisent? Et est-ce qu'ils comprennent? Et est-ce qu'ensuite, après avoir connu la vérité, ils appliquent cette vérité? Ou alors, ils transforment les paroles? Et c'est pour cela qu'on entend certains qui vont expliquer ce hadith du prophète qu'on vient de citer. وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِيعْ. Ils vont dire, c'est dans le cas où l'imam il est droit. مَصْبُوتْ. Comme ça, ils utilisent les termes. C'est-à-dire, quelqu'un, il est droit à la base. Mais il va prendre d'une personne, c'est bien, ou alors il va le frapper, etc. Alors, à ce moment-là, on ne doit pas sortir contre le gouverneur, mais on doit prendre son droit d'une manière ou d'une autre. Voilà comme ils expliquent le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Yuqayyidun inam. C'est-à-dire donc ils vont restreindre, ils vont donner une restriction à cette parole qui est générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où est venue cette restriction? Que c'est un imam à la base qui est masbout, c'est-à-dire qui est droit, mais qui a fait du tort à une seule personne. Nous on veut les preuves par rapport à cela, de la sunna et ensuite des paroles des salafs. Et lorsqu'on a rapporté cette parole à Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, cette parole qui était dite donc par le prédicateur Al-Huraifi, il a dit, cette personne-là, elle suit sa passion. Et elle explique les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la passion. Et na'am. Donc, si maintenant, de ces prédicateurs, on reçoit un tel enseignement, on reçoit une telle explication des hadiths, sans preuve, sans burhan, contraire à ce qui était cité par les savants de la sunna, ce qu'on vient de citer, et ce qui sera encore cité. Alors comment on va dire des gens qui eux sont ignorants, et qui entendent le premier venu, et qui considèrent ceux qui racontent les histoires al-qassas min al-ulama, des savants, et qui sont capables aujourd'hui donc de faire les fatwas. Haoul al-qassas. Wallah al-musta'an. Et on va voir également fi hadha al-bab. On va voir également dans ce chapitre-là, bi idhnillah, encore d'autres paroles d'après des écrits de prédicateurs qui sont connus et qui ont une grande réputation dans le monde musulman. On va voir également d'autres paroles, bi'idhnillah, qui seront complètement contraires à ce qui est connu du minhaj des salaf. Wallah al-musta'an. Et on verra également le takhlit, c'est-à-dire donc le mélange entre la sunna et l'afkar al-munharifa. Le mélange entre la salafia et la hizbiya. Donc si ces gens-là, ils mélangent et d'autres prédicateurs les prennent comme référence, qu'est-ce qui va devenir ? Al-khalta. Il va devenir un mélange. Ils vont vous parler au nom de la salafia alors qu'ils ont des règles qu'ils ont apprises de ces gens-là qui ne sont autres que de la pure hizbiya. Wallah al-musta'an. Qui n'ont rien à voir avec le manhaj des salaf. Ça va être un mélange. Et donc le shir, rahmatullah alayhi, après avoir cité beaucoup de hadiths, plusieurs hadiths dans ce chapitre, il va donc nous dire فَهَذَا أَمْرٌ بِالطَّاعَةِ مَعَ إِسْتِئْثَارُ وَلِي الْأَمْرِ وَذَلِكَ ظُلْمُ مِنْهُ وَنَهْيٌ عَنْ مُنَازَعَةِ الْأَمْرِ أَهْلَهُ وَذَلِكَ نَهْيٌ عَنِ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَنَّ أَهْلَهُ هُمْ أُولُو الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ وَهُمَ الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَأْمُرُونَ بِهِ وليس المراد من يستحق أن يولى ولا سلطان له ولا المتولي العادل لأنه قد ذكر أنهم يستأثرون فدل على أنه نهى عن منازعة ولي الأمر وإن كان مستأثرا وهذا باب واسع. Et donc ici le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il insiste encore et il nous dit donc que c'est un ordre ici de l'obéissance alors que il y a la question de l'istithar, c'est-à-dire comme on a expliqué et comme on l'a dit, c'est-à-dire donc des droits qui sont bafoués par le gouverneur, des droits qui sont bafoués et qui reviennent aux musulmans. Ça c'est istithar, que ce soit dans l'argent ou autre. Et malgré cela, comme nous l'a dit le shir, فَهَذَا أَمْرٌ بِالطَّاعَةِ مَعَ إِسْتِثَارِ وَلِي الْأَمْرِ. C'est-à-dire donc ici, c'est un ordre de l'obéissance, un ordre qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de la révélation, al-wahi. وَذَلِكَ ظُلْمُ مِنْهُ ونهي عن منازعة الأمر أهل. على كل حال, ici le cheikh donc il répète ce qu'on a déjà rappelé à travers les paroles des prédécesseurs et également donc il insiste sur cette question de al-istithar. Malgré cela, le musulman il doit obéir. Et ici quand même un point qu'on va citer lorsqu'il dit le cheikh وليس المراد من يستحق أن يولي ولا سلطان له ولا المتولي العادل. Donc ici, le shir nous fait comprendre que ce n'est pas ici par celui qu'on voit qui a lui un droit ou qu'on pourrait voir comme étant ayant le plus de droit à être le hakim. Ou alors celui à la base qui n'a pas de sultan. Ou alors celui qui est droit dans sa religion, qui applique la justice. Al-mutawali, al-adil, qui applique donc la justice dans toute chose. Il dit, ce n'est pas ici le sens. C'est-à-dire ici, comme on l'a vu dans la sunna, il est rappelé que ces gens-là, donc, atharatan. Ce terme, donc, qu'on comprend et qu'on sait ce qu'il veut dire maintenant. Tayyib. Donc, il nous dit, fadalla ala annahu naha an munaza'ati walil amr. Wa in kana musta'thiran. Et donc, cela prouve bien qu'il nous est interdit d'aller contre le gouverneur. Et même si c'est dans ce cas-là, et même s'il fait cela. Et Ibn Hajar, fil Fath, il nous dit également وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقِّنَ الدِّمَى وَتَسْكِينَ الدَّهْمَى. Et donc il nous dit ici, Ibn Hajar, de même que tous les jurisconsultes de la sunna, bien entendu, ils sont tous d'accord sur l'obligation de suivre et d'obéir au gouverneur. Celui qui a pris, comme on l'a dit, que celui qui a pris donc ce pouvoir par la force ou autre, du temps donc qu'il est reconnu comme étant à ce moment-là al-amir, à ce moment-là al-sultan, donc on doit lui obéir et on doit faire le djihad avec lui. Et que le suivre et l'obéir est mieux que de sortir contre lui, ou alors de le combattre. Car cela, comme il nous rappelle Ibn Hajar, cela, bien entendu, pour protéger le sang des musulmans. Également ici, on va rappeler d'une parole de Ibn Qudama. On va citer plusieurs citations des savants, parce qu'ici c'est important. Ce n'est pas une seule citation qu'on va en citer, mais plusieurs. Et chaque citation, elle aura, Inch'Allah, yani, des spécificités ou alors des points qui sont importants à rappeler. Il nous rappelle également Ibn Qudama fil Mughni, وجمله الامر ان من اتفق المسلمون على امامته وبيعته تثبت امامته ووجبت معونته لما ذكرنا من الحديث والاجماع وفي معناه من تثبت امامته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعهد امام قبل اليه فان ابا بكر تثبت امامته او ثبتت امامته باجماع الصحابه على بيعته وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه وأجمع الصحابة على قبوله ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغرب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما يحرم الخروج عليه وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله. Donc ici nous rappelle Ibn Qudama que celui dont son imama, elle a été établie, alors il est obligatoire de l'aider, et obligatoire donc de le suivre. Comme cela a été cité dans le hadith, ou dans les hadiths, également à l'ijma', ijma' al-muslimin, le consensus des savants, le consensus des gens de la sunna. وَفِي مَعْنَاهُ مَنْ ثَبَتَتْ نَعْمْ ثَبَتَتْ إِمَامَتَهُ بِعَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, bien entendu, celui qui est venu après le prophète صلى الله عليه وسلم, en tant qu'imam, à la place d'imam, ça a été Abu Bakr. Et bien entendu, à partir de là, il y a eu l'ijma' des sahaba. Le consensus des sahaba, comme quoi celui qui allait venir après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr. Donc ici, il y a eu un consensus ijma' des sahaba. Et également, il y a eu des indications du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On avait déjà indiqué cela dans les cours sur les compagnons. Il y a également eu des indications du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur donc l'imama de Abu Bakr après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aw bi ahdi imam qablahu ilayhi fa in Abu Bakr thabatat imamatuhu bi ijma' as-sahaba ala bay'ati nam wa Umar thabatat imamatuhu bi ahdi Abi Bakr ilayhi. Et bien entendu, après celui qui était désigné après Abu Bakr, ça a été Umar. Donc ici, du moment où il y a eu l'établissement de l'imama, alors on doit le suivre. Et également ici, comme on l'a cité auparavant, un autre cas où le gouverneur il va prendre le pouvoir, s'accaparer du pouvoir, c'est bilqahr, c'est-à-dire donc avec force, en prenant les armes. Et si au moment donc où il a renversé, où il a pris le pouvoir, il a renversé celui qui était au pouvoir et que son hukm, il était ensuite établi, donc son pouvoir il a été établi, il a pris cela de force. On va voir donc des exemples, on va voir des exemples dans ce qui s'est passé du temps des salafs, bi'idhnillah, sur cette question-là. Alors, à ce moment-là, également, il devient un imam et on doit le suivre, même s'il a pris cela par force. Du moment où les gens, ils n'ont plus le choix que de se soumettre à son pouvoir, alors ils doivent se soumettre et obéir donc à celui à ce moment-là qui a pris ce pouvoir. Et il n'est pas permis de sortir contre lui. Également, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il dit dans sa risala ila al-Thaghr wa ajma'u ala al-sam'i wa al-ta'a li a'immati al-muslimin. C'est-à-dire donc que les savants, ils sont tous unis pour dire qu'il faut suivre et obéir les imams des musulmans. وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غربة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بسيف جار أو عدل وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها ويصلي خلفهم الجمع والأعياد الجمع والأعياد نعم. Donc également ici, il nous rappelle Abu al-Hassan que celui qui a l'autorité du pouvoir et que cela soit fait donc, soit advenu an rida, c'est-à-dire de la satisfaction et de l'approbation des musulmans. Ou alors, au ghalaba, c'est-à-dire donc ici, que ça s'est fait donc par la force. Yani sans que les gens ils ont eu le choix, sans même être satisfaits ou autre. وَمْتَدَّتْ طَاعَتُهُ مِنْ بَرِّنْ وَفَاجِرِنْ C'est-à-dire donc, et qu'ensuite, son obéissance, donc elle doit être faite. Elle s'applique à tout le monde, elle s'étale pour tout le monde. Et qu'il soit donc cette personne-là bar ou fajir, que ce soit donc une personne qui soit droit ou alors un fajir. Et ensuite, il nous rappelle ce qu'on a déjà cité. Et également ici, ce qu'on va citer est ce qui était rappelé dans une risala, dans un livre concis, mais qui est très très important, Fibabi, et qui s'appelle Mu'amalatul Hakim, c'est-à-dire donc comment on doit agir par rapport au gouverneur, et qui a été écrit par Cheikh Abdussalam Ibn Burgess, rahimahullah ta'ala. Et ce livre-là, cette risala, elle nous a été enseignée à l'université islamique par un de nos professeurs. On l'a lu entièrement et on l'a étudié entièrement. Et le Cheikh, c'était quelqu'un qui a revivifié ce menhaj, surtout fi hadha al-bab, dans la question de l'imama ou al-bi'a, à travers les jeunes, rahimallahu ta'ala. Et on assista à plusieurs de ses cours lorsqu'il venait à Médine, et qu'il était accompagné de Cheikh Mohamed al-Matrali, car ils étaient très proches, lui et Cheikh Mohamed al-Matrali. Hafidhullah wa rahmatullah ala Cheikh. Et cette risala, elle est concise, mais elle est complète. Elle est très importante à connaître. Et on avait déjà cité, lorsqu'on avait fait on avait terminé le livre Les Repères de la Sunna, A'lam al-Sunna, on avait cité plusieurs passages de ce livre lorsqu'on avait parlé de notre croyance par rapport à ta'at wali al-amr, c'est-à-dire dans l'obéissance à celui qui détient le pouvoir. Et ici, on va citer ici quelques passages qui vont être très intéressants dans ce chapitre-là, donc, Al-Imama ou Al-Bay'a, où il nous dit le Cheikh, et il nous rappelle la position qu'a eue l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et comme cela est rapporté fi At-Tabaqat al-Hanabila, yaqul Hanbal, rahimahullah. Hanbal, donc, il rapporte et il dit Ijtama'a fuqaha Baghdad fi wilayat al-Wathiq ila Abi Abdillah. C'est-à-dire donc qu'il y a plusieurs fuqaha de Bagdad. Lorsque le hukm, il appartenait à Al-Wathiq, donc du temps de Al-Wathiq, il a Abi Abdillah. Il veut dire par là, bien entendu, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Wa qalu lahu inna al-amra qad tafaqama wa fasha. Ya'nun idhhar al-qawl bi khalq al-Qur'an. C'est-à-dire, ils ont dit que Al-Amr, et ici ce qui était voulu par Al-Amr, cette affaire, c'était donc l'apparition de la parole. Et lorsqu'on dit Al-Qawl ici, c'est une parole, mais une croyance. Wallah al-musta'an bi khalq al-Qur'an, de la création du Qur'an. Donc c'est quelque chose qui maintenant est répandu. Ils ont dit wala narda bi imaratihi wala sultani. Et donc celui qui est à l'origine de cela, qui aujourd'hui donc répand chez les jeunes, chez les savants, chez tout le monde de par la force, et qui oblige les gens donc à dire cette parole là qui est khalq al-Qur'an, et donc bien entendu c'est une parole de kufr de dire la création, que le Qur'an il est créé, c'est une parole bien entendu de kufr. Wallah al-musta'an. Et donc ils sont venus voir l'imam Ahmed et ils lui ont dit donc nous ne sommes pas satisfaits la narda et nous ne voulons pas donc de son pouvoir. Fanazarahum fi dhalik. Et donc l'imam Ahmed il a débattu avec eux sur ce sujet là. Wa qal alaykum bil inkari fi qulubikum. C'est-à-dire que vous devez blâmer cette chose là de par vos cœurs. Fi qulubikum. Wa la takhla'u yadan min ta'atin. Et donc, ne retirez pas votre main de son obéissance. C'est-à-dire donc, ne retirez pas ou n'annulez pas votre obéissance envers al-hakim. Wala takhru yadan min ta'atin. La tashuqqu 'asa al-muslimin wa la tasfiku dima'akum wa dima' al-muslimin ma'akum. وانظروا في عاقبة أمركم. Et donc ici, ne déstabilisez pas l'unité des musulmans et ne faites pas couler le sang des musulmans, votre sang et le sang des musulmans, et regardez sur ce qui va devenir. عاقبة أمركم, c'est-à-dire allez regarder bien plus loin de ce que de cet acte-là, qu'est-ce qui va devenir si vous faites cet acte-là. Regardez les choses عن بعد, de loin, très loin. واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجرين وقال ليس هذا يعني نزع ايديهم من طاعتي صوابا هذا خلاف الاثار اصبروا c'est-à-dire patienter devant cette grande épreuve, patienter jusqu'à que celui qui est pieux al bar yastarih, jusqu'à que il revienne donc dans son état de raha, c'est-à-dire donc qu'il retrouve son état de bien-aisance. وَيُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ, qu'on soit éloigné, donc ici le sens qu'on soit éloigné de tout pervers, qu'on se repose de tout pervers. Et il leur a dit, ce n'est pas cette affaire-là, ou ce n'est pas donc la solution de retirer notre obéissance. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais هَذَا خِلَافُ الْآثَارِ, c'est contraire au athar, c'est-à-dire à ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est venu des sahaba. C'est contraire. Hada khilaf al-athar. Donc regardez, ici on est dans une grande question. C'est la question de khalq al-Qur'an, une question de kufr. C'est une question donc d'iman et de kufr ici. Khalq al-Qur'an, qu'ont inventé le Mu'tazila, ayadan billah, et qui sont rapprochés donc du pouvoir, et qu'ils ont rentré dans le cœur du gouverneur cette chouboua. Jusqu'à qu'il oblige les gens, et on sait ce qui est advenu du temps de l'épreuve de l'imam Ahmed, et tout ce qu'ont subi les savants à cette époque-là, les savants de la Sunna. Ici, ce qu'on s'aperçoit de manière claire, هذا تطبيق عملي, c'est en réalité ici. Ce qu'a fait l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, c'est réellement ici un tatbiq, c'est une application de par l'action de la voix des gens de la Sunna. Et c'est pour ça que l'imam al-Hassan al-Barbahari, dans son livre, il nous dit « إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلُ يَدْعُوا عَلَى السُلْطَانِ فَعْلَمَ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى » Si tu vois donc une personne qui invoque contre le gouverneur, alors sache que c'est quelqu'un qui suit sa passion, « صَاحِبُ هَوَى » une personne de passion. « وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَدْعُوا لِسُلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَعْلَمَ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةِ إِنْشَاءَ ta'ala. Et si une personne, tu la vois, qu'elle fait des invocations pour le sultan, alors sache, des invocations bien entendu positives pour le sultan, bis salah, pour qu'il soit droit, pour qu'Allah azawajal yarzuqu salah, alors sache que cette personne-là, sahibu sunnah, c'est une personne qui suit la sunnah, sahibu sunnah. Et il dit, al-Fudail ibn Iyad, law kana li da'wa, ma ja'altuha illa fi sultan. C'est-à-dire, si j'avais une seule da'wa, alors je l'aurais, une seule da'wa qui serait exaucée, alors cette da'wa-là, cette invocation, elle serait spécifique pour le sultan. Et c'est pour ça que cette règle-là, qui était appliquée par l'imam Ahmed dans son temps, tatbiq amali, هذه القاعدة, قاعدة السلف, donc cette règle des salafs, في هذا الباب, on a besoin qu'elle soit propagée. الاعتناء بهذه القاعدة, que cette qaïda, que cette règle-là, elle soit pagée chez les jeunes, chez tout le monde. Et que c'est un devoir de tout prédicateur de propager cette règle-là des salafs avec les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les paroles des salafs et avec l'application qui en a été faite, tatbiq amali, de manière pragmatique, de ces mêmes salafs et ceux qui les ont suivis dans leur voie. Si le devoir il est fait, on va fermer donc les portes de la fitane. On va fermer les portes du khuruj. qui est en réalité aslu fasad dunya wa din, qui est en réalité la base du fasad de la dunya et également de la religion. Wallah al-musta'an. Et si on regarde cette règle-là, alors on voit qu'elle prend corps dans les livres des savants de la da'wa al-najdiya, du Najd. Et parmi eux, ce qu'a écrit al-Sheikh al-Imam Abdel Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan al-Sheikh, rahimahullah, lorsqu'il dit donc, regardez cette parole qu'il va dire, ce grand savant parmi les savants de al-Najd, et qui était un des porteurs de la da'wa al-Najdiya, il dit donc, وَلَمْ يَدْرِي هَاُولَا الْمَفْتُونُونَ أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام وسادة العظام معهم معروفة مشهورة لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبة الدين وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر بن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في الطاعة والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به للإسلام ويكمل به الإيمان. Donc regardez ce qu'il va nous dire ici. نعم. Il dit وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم ونظائرهم من سادة الأمة واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادة الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية ووضع الفراش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوية وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه وقتل من قتل كمحمد بن نصر ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم وكلام أئمة الدعوة رحمهم الله كثير في هذا الباب. على كل حال, ici c'est important de faire un point lorsqu'on regarde l'histoire. De façon générale, lorsqu'on regarde l'histoire, il nous dit ici, le Cheikh ou l'imam Abdel Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan Ali Cheikh, rahimallahu ta'ala, il nous dit que si on regarde ceux qui sont donc maftoun, ceux qui sont en fait, qui sont tombés dans cette fitna, de al-fitna d'al-khuruj contre al-hukam al-zalim, wa al-takfir, takfir al-hukam, etc. Il nous dit, haoula al-maftounoun, ils ne savent pas, ils n'ont pas connaissance que la plupart, an akthar, wilat ahl al-islam min ahd Yazid ibn Muawiyah, c'est-à-dire de, ils n'ont connaissance de l'état des gouverneurs depuis l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Bien entendu, le shir, il fait sortir de cette série, comme tout le monde le sait, Omar ibn Abdel Aziz, qui faisait partie, bien entendu, on appelait comme étant le cinquième khalif, calife bien guidé, Tayyib, et ceux dont Allah Azzawajal il a voulu. Min Bani Umayya, tous étaient bien entendu de Bani Umayya. Il a dit tous, Arfan, il a dit donc la plupart, ils sont tombés dans des choses que tout le monde déteste. Min al-jur'a wal-hawadith al-idham, il y a des grands événements, des événements bien entendu qui rentrent dans le munkar et pas dans le bien. Wal-khuruj wal-fasad, et donc le combat wal-fasad qui est arrivé fi wilayat al-islam. Et malgré cela, lorsqu'on regarde donc la sira, lorsqu'on regarde donc la biographie des grands imams, la biographie des grands noms de l'histoire de l'islam, alors il nous dit qu'elle est connue, cette sira, et que jamais ils n'ont désobéi, jamais ils ne sont sortis de la désobéissance du gouverneur. Malgré tout ce qui est arrivé, ils ont continué à obéir dans ce qu'Allah Azzawajal il a ordonné et son prophète. Ce qui concerne bien entendu les rites de l'islam, ce qui concerne les obligations de la religion. Et il nous donne un exemple, cher. Il nous dit « وَاضْرِبُ لَكَ مَثَلْ بِالْحَجَّاجِ ibn Yusuf al-Thaqafi » Qui c'est qui ne connaît pas donc Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi? Tout le monde l'a connu et tout le monde a su que c'était une personne dont sa notoriété a été répandue, mais une notoriété donc négative, et celle donc qui est de l'injustice et également du meurtre. Wal-Israf fi safkat dima, et tout ce qu'il a fait couler comme sang. Wallah al-Musta'an. Et même intihak hurumatillah. Et donc, toute la communauté l'a connu par l'injustice, cet homme. Et malgré cela, sachant qu'il a même tué des grands hommes de cette communauté, qatala min qatala min sadat al-umma, comme Saïd ibn Jubair, wa hasara ibn Zubair. Alors qu'on sait que Ibn Zubair, alors qu'il s'était réfugié donc dans le haram al-sharif, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le siège du haram à ce moment-là pour combattre Ibn Zubair. Et ça, bien entendu, c'est un grand acte méprisable, Wallah al-Musta'an. Wa qatala Ibn Zubair, et après cela, donc, il l'a tué, jusqu'à qu'il l'a tué, Wallah al-Musta'an. Pas à n'importe quel endroit, fil haram. Malgré que Ibn Zubair, il lui avait donné son obéissance. Et malgré que la plupart donc des gens de Mecca et de Médina et du Yémen et de la plus grande partie de l'Irak, il avait donné la bay'a, il avait donc prêté allégeance. Sachant que le Hajjaj, c'est en réalité Naïb, il est Naïb, c'est-à-dire le représentant de Marwan, Thuma'an Waladihi Abdel Malik, et bien entendu donc de son fils Abdel Malik. Et qu'à cette époque-là, personne parmi le Khulafa, ils avaient donné l'allégeance à Marwan. Et même les gens de ceux qu'on a appelés donc, qu'on a déjà vu qu'ils étaient Ahlul Hil wal Aqd, c'est-à-dire donc les gens qui sont habilités à donner donc Al-Bi'a, ils ne l'avaient pas fait. Wa ma'a dhalik, regardez, ça en fait des choses qui se sont accumulées. Beaucoup de choses qui se sont accumulées. Et malgré cela, tout cela, lam yatawaqqaf ahadun min ahli al-'ilm fi ta'ati wal inqiyad lahu fi ma yatasughu ta'atu fihi min arkan al-islam wa wajibati. C'est-à-dire, il nous dit, le shir, rahimahullah, ce savant, que malgré cela, personne parmi les gens de la science, ils se sont arrêtés de lui donner l'obéissance. Donc, bien entendu, tout ce qui correspond donc aux obéissances de arkan al-islam et de les obligations, al-wajibat. Et il nous rappelle que Ibn Omar et que ceux qui ont été à l'époque et sous donc le commandement de Al-Hajjaj, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'était à l'encontre même de son hukm, c'est-à-dire donc qu'ils n'ont pas été à l'encontre donc de son obéissance. qui ne sont pas interdits à eux-mêmes de le suivre, dans ce qui était bien entendu dans ce qui était de l'islam, fima yaqum bihi al-islam wa yukammilu bihi al-iman. Et il nous dit de même du temps des tabi'in, il nous donne des exemples comme Ibn Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, wa Ibrahim al-Tamimi, wa tous ceux qui sont venus et qui ont été donc dans cette catégorie de gens. Et cet acte-là, il a continué, c'est-à-dire donc l'acte de l'obéissance, il a continué ensuite. Sachant que Banu al-Abbas, donc al-Abbasiyya, lorsqu'ils ont combattu bil-Saif, lorsqu'ils ont combattu avec la force, avec les armes, dans les contrées musulmanes, personne parmi les savants, personne parmi les gens de science, parmi les gens de religion, les ont aidés dans cela. Alors qu'ils ont tué beaucoup de gens ils ont tués. Parmi, bien entendu, ceux qui à l'époque avaient le pouvoir, qui étaient de Bani Umayya. Ils ont tué les émirs de Bani Umayya, ils ont tué ceux qui les représentaient de Bani Umayya. Ils ont tué également l'émir de l'Irak, Ibn Hubayra. Ils ont également tué le Khalifa Marwan. Ils l'ont tué également. Jusqu'à que il a été dit que parmi eux, ceux qui tuaient plus de 80 musulmans qui faisaient partie de Bani Umayya dans une seule journée. Et parmi leurs actes, lorsqu'ils tuaient ces gens-là, alors ils mettaient sur eux des tapis ou autres. Et ils s'asseyaient sur eux et ils demandaient qu'on leur apporte à manger et à boire. Et avec cela, est-ce que ce n'est pas des actes qui sont terribles à entendre? Et malgré cela, « wa ma'a dhalik », il nous dit le shir, « fasiratul a'imma, comme al-Awza'i, comme l'imam Malik, comme al-Zuhri, wa al-Layth ibn Sa'd, wa Ata ibn Abi Rabah, ma'a ha'oula al-Muluk », donc quelle a été leur manière de faire, quelle a été donc leur biographie, lorsqu'on regarde la biographie de ces gens-là avec ces rois-là, « la tarfa'a la man la'u musharakatun fil ilmi wa l'ittila'a », c'est-à-dire que cela ne peut être ignoré de celui qui a la moindre musharaka, c'est-à-dire qui a la moindre participation dans le domaine de la science et qui lit un minimum de livres sur la biographie de ces gens-là et ce qui est arrivé durant leur temps et que l'on retrouve donc dans les livres de Sira, dans les livres de biographie, dans les livres d'histoire, etc. Et il nous dit la deuxième, la tabaqatu thaniya, c'est-à-dire donc la deuxième génération qui est venue ensuite, comme Ahmed ibn Hanbal, ou Muhammad ibn Ismail, ou Muhammad ibn Idris, ou Ahmed ibn Nuh, ou Ishaq ibn Rahouya, etc. Tout ce qui est devenu également, durant leur temps, ce qui est devenu des rois, et comme on l'a vu donc, des choses qui sont rentrées dans les innovations, des points qui ont touché donc les innovations, qui ont touché Inkar Sifat, qui ont touché donc le fait de refuter des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ont été appelés à faire cela, qu'on les a obligés à faire cela, qu'on leur a fait des imtihan, c'est-à-dire on les a éprouvés dans cela, et que parmi eux, ceux qui ont été tués, comme Muhammad ibn Nasr, etc., alors on ne connaît personne parmi tous ces imams, dans tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a cité, qui ont retiré leurs mains de l'obéissance à celui qui détient l'autorité. Personne. فَلَا يُعْلَمَنْ أَحَدًا مِنْهُمْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ وَلَا رَأَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ, et qui n'ont pas vu également le fait de sortir contre eux, de les combattre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire après tout cela? Après qu'on apporte les preuves de la sunna, après qu'on apporte les paroles des grands savants, nous rapportons ce qu'est les avis des grands imams de la sunna dans cela. Après que l'on voit comment cela a été appliqué par ces mêmes imams, que reste-t-il après cela pour pouvoir donc appeler à ce qu'appelle Al-Hizbiyoun, Wallah al-Musta'an? Mais malheureusement, si on regarde par rapport à tout ce qu'on a cité, et pourquoi cela est advenu dans cette communauté, c'est qu'en vérité, il y a deux choses. La première, ralabatul jahl, c'est-à-dire que l'ignorance, elle a pris le dessus, malheureusement. L'ignorance, elle a pris le dessus sur les musulmans, sur les gens de la masse, qui ne connaissent aucunement donc ces règles concernant donc l'imama ou al-bi'a. Et la deuxième chose, c'est bien entendu ceux qui ont répandu les idées, al-afkar al-munharifa fi, c'est-à-dire ceux qui ont répandu les idées qui sont contradictoires, les idées qui sont des idées de l'égarement, des idées égarées dans ce sujet-là. Donc de ces deux choses, il est advenu ce qu'il est advenu. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça qu'on le répète. Et c'est un mi'thaq. C'est en réalité un contrat que doit s'acquitter tout talib al-ilm, que doit s'acquitter tout prédicateur, qui est soucieux donc d'appeler les gens à la sunna, et donc particulièrement dans notre temps où les fitnas, elles n'arrêtent pas et elles se multiplient jour après jour, donc que ces gens-là, ils fassent l'effort pour propager ces règles, les règles donc des salafs, et surtout de montrer quelle est la réelle position que doit avoir le musulman, celui qui est soucieux de se soumettre, soucieux de se conformer à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc de transmettre cette science-là, de transmettre cette règle-là, avec force. Taïb, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il nous reste encore à définir, on va dire plus précisément, al-bi'a, de parler encore de certains points, comme le fait qu'il y a plusieurs gouverneurs à notre époque. Inch'Allah, on continuera le prochain cours, bi'idhnillah, même si on fait cette différence-là, la position qu'on a à avoir sur ce troisième point, donc, si on fait en trois cours, c'est pas grave. Le principal, c'est que ce soit bien fait, Inch'Allah, et le plus complet possible, dans la mesure du possible. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.